Alors un jour, il y avait un roi qui... c'était un roi particulier. Il aimait bien boire un petit coup. Et il avait trois médecins qui... Voilà. Et comme il était soucieux de sa santé, malgré tout, il les a convoqués pour savoir, pour qu'ils lui disent à quel moment c'était le mieux pour lui de boire son alcool. Est-ce que c'était le mieux avant le repas, pendant le repas ou après le repas? Peut-être que vous avez une idée hein, sur ça. Et donc le premier médecin argumente et il lui dit « Pour moi, le mieux, c'est avant le repas. » Et donc il est très convaincant sur ça. Le second médecin, tout aussi persuasif, lui dit « Ah non, moi je crois que c'est pendant le repas. C'est là que c'est le mieux. » Et le troisième lui annonce de façon catégorique « C'est après le repas le meilleur moment pour boire un petit peu d'alcool. » Alors, après les avoir écoutés tous les trois et remerciés pour leur brillante démonstration, il leur dit « Vous m'avez tous les trois convaincus, je vais donc boire avant, pendant et après le repas. » Alors, c'est rigolo, n'est-ce pas? Mais derrière ça, n'est-ce pas, il y a une leçon pour nous, les enfants de Dieu. Si nous avons besoin de savoir quoi faire dans nos vies, si nous avons besoin d'être guidés, il faut nous adresser à Dieu uniquement. Il ne faut pas prendre conseil auprès des hommes. Parce que chaque personne que nous allons contacter pour un conseil va nous donner sa propre façon de voir les choses, ce qui est normal. Mais nous ne serons pas plus avancés. Si nous nous contentons, j'allais dire, si nous faisons le choix de nous adresser à Dieu et de compter sur Dieu pour qu'il nous parle, eh bien, nous aurons une certitude, c'est que nous serons guidés parfaitement. De nombreux versets dans la Bible nous rappellent que Dieu s'occupe de nous, qu'il nous guide. N'est-ce pas? C'était vrai à l'époque, dans le désert, le peuple d'Israël était guidé par la voix des prophètes, et c'est vrai encore aujourd'hui. Je donne rapidement quelques versets, juste pour... Il y a une pléthore de versets qui parlent de ça. N'est-ce pas? C'est étrange d'ailleurs que les chrétiens aient le nez plongé dans la Bible, où ils lisent des choses comme « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, ne t'appuie pas sur ta sagesse, reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers », et que, ayant lu cela, on se détourne et on s'appuie sur quoi? Sur sa sagesse et celle des autres hommes. C'est pitoyable. Il ne faut pas s'étonner qu'après, on ait du mal à s'en sortir dans la vie. Si on compte sur tout sauf sur Dieu, c'est une chose de dire « je crois dans la Bible » et de la lire et de ne pas faire ce qui est marqué. Psaume 32, verset 8, « Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Ésaïe 58, verset 11, « L'Éternel sera toujours ton guide, il rassasira ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. » Est-ce que Dieu ment? Jean 16, verset 13. « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. » Romains 8, 14. « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » C'est Dieu qui nous conduit. Et c'est ça que proclame la Bible, la parole de Dieu. Et, n'est-ce pas, la question c'est, est-ce que c'est vrai pour moi? Est-ce que je suis conduit par Dieu? Est-ce que je suis guidé par Dieu? Et si je ne me sens pas guidé par Dieu, eh bien, comment est-ce que je peux être guidé? Ça ne sert à rien de faire de l'auto-persuasion et de dire « oui, c'est le Seigneur qui me guide, c'est le Seigneur qui me guide » et de faire exactement l'inverse, c'est-à-dire de chercher par tous les moyens de trouver des guides ailleurs. La réalité, c'est qu'on a perdu l'habitude de chercher d'être guidé par Dieu. Et pour plein de raisons. On a perdu l'habitude de lire la Bible avec foi. Il y a des gens qui croient en l'infaillibilité du texte, mais ils ne croient pas en l'infaillibilité de Dieu. Et quand viennent les difficultés au quotidien, eh bien ils sont perdus. Ils ne comprennent pas ce qui leur arrive. Il y a des gens qui croient en Dieu, mais pas dans sa volonté réelle de s'adresser à nous directement par l'intermédiaire d'un frère, d'un prédicateur ou même dans la Bible. Il y en a qui ont des préjugés concernant les dons spirituels. Alors, ils deviennent sourds et aveugles lorsqu'ils sont dans des rencontres chrétiennes qui ne sont pas classiques. N'est-ce pas ? Lorsque ça prend une tournure un peu chamboulée, hop, ils se referment et ils sont incapables d'entendre ce que le Seigneur veut leur dire. Si nous connaissions bien les façons de faire de Dieu, nous ne serions pas étonnés lorsqu'il nous demande de faire des choses étranges. Dans Josué 6, Dieu demande à son peuple de marcher autour de la ville de Jéricho pendant 7 jours. C'est bizarre, non ? On veut mener un combat. Eh bien, marcher autour de la ville. Je me demande à quoi pensaient les gens quand ils faisaient ça, n'est-ce pas ? À quoi est-ce qu'on aurait pensé, nous ? Ils ont marché et la ville a été détruite au bout de 7 jours. Brigitte me disait, ils auraient pu faire ça à Gaza. Dieu demande à Moïse d'élever son bâton, pour que les eaux de la mer Rouge s'ouvrent. Ça ne pouvait pas être juste fait comme ça ? Non, lève ton bâton. Dieu a demandé au prophète Ézéchiel de manger du pain cuit sur du fumier comme combustible, parce qu'il voulait symboliser par là le siège de Jérusalem. Jésus a demandé à Pierre, qui venait de rentrer bredouille d'une pêche nocturne, il lui a dit « Mais jette tes filets par là-bas. » Et Pierre l'a fait. Alors que ça lui semblait sans doute étrange. Et aussi la vision de Pierre concernant les animaux dits impurs et la révélation que Dieu lui fait qu'il ne fallait plus considérer comme impur ce que Dieu avait désormais décrété pur. Nous manquons d'entendre la voix de Dieu bien souvent parce que nous nous sommes éloignés de Dieu, parce que nous ne cherchons pas à mieux le connaître. La parole dit que ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Il n'est pas question de violence physique, mais d'engagement. D'engagement. Alors justement, nous allons dans 2 Rois, chapitre 13, et au verset 14. À partir du verset 14, et je vais lire jusqu'au verset 19. Élisée, donc c'est la fin de vie d'Élisée et du roi Joas d'ailleurs, mais c'est donc un événement qui se passe durant le règne. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut, et Joas, roi d'Israël, descendit vers lui, pleura sur son visage et dit « mon père, char d'Israël et sa cavalerie ». Élisée lui dit « prends un arc et des flèches ». Et il prit un arc et des flèches. Puis Élisée dit au roi d'Israël, « Bande l'arc avec ta main. » Et quand il l'eut bandé de sa main, Élisée mit ses mains sur les mains du roi. « Ouvre la fenêtre à l'Orient. » Et il l'ouvrit. Élisée dit, « Tire. » Et il tira. Élisée dit, « C'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel, une flèche de délivrance contre les Syriens. Tu battras les Syriens à Aphek. » Jusqu'à leur extermination. Élisée dit encore, prends les flèches, et il les prit, Élisée dit au roi d'Israël, frappe contre terre. Et il frappa trois fois et s'arrêta. L'homme de Dieu s'irrita contre lui et dit, il fallait frapper cinq ou six fois, alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Maintenant, tu les battras trois fois. À l'époque, donc le pays était divisé en deux, hein, dans le royaume du nord, donc, et le royaume de Juda au sud. Cette division s'est faite après la mort du roi Salomon. Dans ce récit, il y a trois vérités sur la façon dont Dieu veut nous guider. Mais avant ça, j'aimerais faire un petit point sur comment il nous guide, comment nous sommes guidés dans la foi et dans l'obéissance. Joas a suivi les instructions d'Élisée. Et ça a conduit à la délivrance d'Israël de façon momentanée au moins. À l'époque, Israël était en conflit avec les Syriens. Et c'est en désespoir de cause qu'il est allé voir Élisée, le prophète, pour qu'il lui dise quoi faire. Joas n'était pas un roi pieux. Hein, il est dit, il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il a régné 16 ans. Sa foi et son engagement auprès de Dieu étaient faibles. Apparemment, il aimait bien Élisée. Il avait une grande affection pour Élisée, mais lui, sa foi était faible. Et c'est ça qui fait que Élisée est obligé de guider les gestes du roi Joas lorsqu'il lui demande de tirer la flèche. Donc il demande à Joas d'ouvrir la fenêtre qui se situe à l'est et de décocher une flèche qui sera, dit-il, une flèche de délivrance. Et en faisant ça, Élisée va superposer ses mains sur celles du roi. Et en accomplissant ce geste, Élisée est en train de transmettre au roi Joas la foi qu'il n'a pas en réalité. Il est en train d'imputer sa foi à Joas. Et donc, Élisée a demandé à Joas de faire quelque chose qui, a priori, n'avait pas de sens. N'est-ce pas, tu es en guerre, tu es en train d'être... De voir que tu n'as plus de solution, tu vas voir le prophète et il te dit « tire une flèche par la fenêtre ». Ça n'a pas de sens. Mais dans son désespoir, le roi a fait confiance au prophète et s'est laissé guider comme un petit enfant. Ça parle de nous. Ça parle des pécheurs, rebelles et désespérés et du Seigneur Jésus. N'est-ce pas ? Il arrive un jour dans nos vies où nous comprenons que notre seule possibilité, la seule façon de nous en sortir est de passer par Jésus, par une rencontre avec Jésus. Nous ne savons pas vraiment pourquoi, mais nous savons que c'est lui notre sauveur. Et lorsque nous avons opéré ce mouvement, lorsque nous nous sommes dirigés vers lui, il va prendre les choses en main. Et c'est lui qui va accomplir notre salut. C'est lui qui va nous guider vers la délivrance en se substituant à nous sur la croix. L'apôtre Paul a parlé de ça dans l'épître aux Galates, Galates 2:16. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être utilisé par la foi de Christ. Il y a certaines traductions, la plupart des traductions aujourd'hui disent « en Christ ». Si vous prenez la traduction Martin, les traductions anciennes font la distinction entre la foi en Jésus-Christ et la foi de Christ. La foi en Jésus-Christ et la foi qui nous attire. C'est-à-dire, je sais que lui peut faire quelque chose. Et je vais le voir. J'ai foi en cet homme. La foi qui nous sauve, ce n'est pas notre foi. C'est la foi de Christ. Je continue dans Galates, parce qu'il dit au verset 19, « Car c'est par la loi que je suis mort à la loi. Afin de vivre pour Dieu, j'ai été crucifié avec Christ. » J'ai été crucifié avec Christ. « Et si je vis, ce n'est plus moi. » Moi, je ne vis plus. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi du Fils de Dieu. Pas la foi au Fils de Dieu. La foi du Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même. N'est-ce pas ça? Ça nous conduit à l'humilité, en fait. Et ça nous enlève un poids. Souvent on dit « Ah, j'ai pas assez de foi, ça n'a rien à voir !» Je ne sais pas d'où viennent ces enseignements, je n'ai pas assez de foi. Dieu ne demande pas d'avoir la foi. La seule foi qu'il nous demande, c'est la foi qui nous attire à lui, de croire qu'il peut nous le faire. Et après, il nous demande d'enlever la couronne que nous avons sur notre tête et de la mettre sur la sienne. De dire, c'est toi qui es mon roi. C'est toi qui es ma foi, c'est toi. C'est toi en moi. C'est notre foi en la capacité de Christ qui nous attire. Mais ce n'est pas notre foi qui nous sauve. C'est la foi de Christ. Pour une comparaison, on pourrait dire, quand je suis menacé par un agresseur, c'est ma foi en la police qui fait que je vais les contacter pour qu'ils viennent me secourir, n'est-ce pas? Je sais qu'eux vont venir pour m'aider. Je vais leur demander d'intervenir. Mais ce n'est pas ma foi qui me sauve. C'est la police qui me sauve. C'est exactement pareil avec le Seigneur Jésus. Ce n'est pas notre foi qui nous sauve. Ce n'est pas notre foi qui nous justifie. C'est Christ qui nous justifie. C'est pas nous qui prions, c'est lui qui prie en nous. Et le Père l'entend et le Père l'exauce. C'est cela que l'apôtre Paul enseignait aux chrétiens de Galates. Il ne faut pas faire de la foi une œuvre. Si j'ai beaucoup de foi, je vais arriver à faire de grandes choses. Non, ça devient une œuvre si on voit les choses comme ça. La flèche de Joas était un signe. C'était un signe de la volonté de Dieu et de la direction divine vers l'Est. Et ça nous rappelle l'importance, n'est-ce pas, qu'il y a à chercher que Dieu nous guide, la guidance de Dieu dans nos actions et dans nos décisions. Comment savoir ce que Dieu veut pour ma vie? Quelle direction prendre? Quand il y a un choix, comment je prends une décision? Ou alors est-ce que je fais comme bon me semble et je dis « Ah, ben bon, je le fais pour le Seigneur ». Est-ce que j'utilise une façon rationnelle de décider? Je fais la balance, n'est-ce pas, les pour, les contre. Ou alors, est-ce que je fais comme les disciples pour remplacer Judas, n'est-ce pas, on tire au sort? Où on lance les dés? Est-ce que j'ai un appel pour partir en mission? Est-ce que, parce que je suis né à un endroit, est-ce que je dois y rester jusqu'à la fin de mes jours? Est-ce que seulement je me pose la question de ce que Dieu veut que je fasse? Dieu a des moyens innombrables pour nous répondre. Mais à nous d'être attentifs. La Bible est un moyen pour être guidé. Et le roi David, par exemple, en était convaincu, n'est-ce pas, dans le psaume 119, Vous lisez que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Par tes ordonnances, je deviens intelligent. Aussi, je hais toute voix de mensonge. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Donc la Bible nous parle, Dieu peut nous parler au travers de la parole sur ce que nous devons faire. Mais la Bible nous dit aussi qui est Dieu, quelle est la sagesse de Dieu, son caractère, comment il agit avec ses enfants, comment il leur parle et leur fait savoir qu'il est avec eux, qu'il veille, qu'il protège. Dieu est toujours encore capable de nous parler aujourd'hui. Parfois, j'ai entendu des gens me dire « Je crois que Dieu m'a dit. » Le « je crois » est de trop. Soit Dieu a dit quelque chose, soit il n'a rien dit. Lorsqu'on dit « je crois que Dieu m'a dit », alors c'est sûr qu'il n'a encore rien dit. Quand Dieu parle, il est tout à fait en mesure d'être clair et compréhensible. Dieu parle par les anges. Eh oui. L'eunuque, n'est-ce pas, cet Éthiopien qui était le responsable, le trésorier de la reine d'Éthiopie, eh bien, a eu droit à rencontrer Philippe parce qu'un ange l'a emmené jusqu'à Philippe. Dieu parle par les circonstances dans nos vies. N'est-ce pas ? Tous les jours, on rencontre des gens à qui Dieu voudrait que l'on parle. Dieu connaît ceux qui le cherchent et il nous confie la mission de nous diriger vers eux pour leur parler. Parce que Dieu était en même temps en train de parler à l'eunuque par le livre d'Isaïe qu'il était en train d'essayer de comprendre. Et donc, d'un côté, il y avait cet homme qui cherchait Dieu, des réponses dans la Bible. Et de l'autre, il y avait Philippe qui parlait de Christ aux foules, qui faisait des miracles, qui baptisait les nouveaux convertis, jusqu'au moment où l'ange s'adresse à lui et lui demande d'aller en direction du sud, sur le chemin qui mène à Gaza. Étonnant, n'est-ce pas ? On n'en sort pas. Hein ? Et qui est un chemin désert, où il n'y a pas de monde. Et sur ce chemin, ils vont se rencontrer. L'eunuque en train de lire le rouleau d'Ésaïe et le prophète et Philippe qui l'interpelle et qui lui dit « Mais est-ce que tu comprends ce que tu lis ? Est-ce que tu comprends ce que tu lis ?» Et il lui explique la prophétie qui concerne Jésus. Et un peu de temps après, il le baptise dans de l'eau au bord du chemin. Quelle que soit la façon dont Dieu parle, ceux qui entendent la voix sont ceux qui sont engagés auprès de Dieu. Est-ce que nous sommes engagés comme Philippe l'était ? Est-ce que les gens savent qu'ils peuvent vous poser des questions concernant la vie avec Jésus ? Élisée, en tant que prophète, a prononcé des paroles qui avaient un impact concret pour la suite du règne de Joas. N'est-ce pas ? Puisqu'après, il a gagné des batailles. Et donc, ça montre que la parole de Dieu, lorsqu'elle est prophétisée, elle a une puissance. Ce que Élisée a dit s'est produit. Question, est-ce que la parole prophétique est toujours d'actualité ? La parole prophétique, c'est quoi ? La parole prophétique, c'est un message inspiré par le Saint-Esprit qui est dit de façon intelligible pour que tout le monde la comprenne, par un membre du corps de Christ. N'est-ce pas ? Dans l'Ancien Testament, Le prophète, c'était un homme choisi par Dieu qui recevait la parole de Dieu et qui la transmettait de la part de Dieu au peuple. Mais dans la Nouvelle Alliance, le peuple et le prophète sont issus d'un même groupe, qui est l'Église de Christ. Puisque selon la prophétie de Joël, que Pierre cite dans le livre des Actes, le Saint-Esprit a été déversé sur toute chair. Ce n'est pas juste un homme, ce n'est pas juste quelqu'un qui a une stature particulière, c'est tout le peuple de Dieu. Acte 2, verset 16, « Mais c'est ici ce qu'a été dit par le prophète Joël, « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et mes servantes, et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. » Nous vivons cette période aujourd'hui. Et ce que Pierre met en avant, c'est que la venue du Saint-Esprit sur toute chair, dont il est question qu'on vient de lire, eh bien, ça marque le début de l'Église. C'est ça qui est la marque de l'Église de Christ, c'est que le Saint-Esprit est déversé sur eux. Et l'Église de Christ est guidée par ce Saint-Esprit et il s'exprime au sein d'un peuple dont le prophète Joël dit, sur lequel voilà, il sera déversé abondamment. Et ça vient compléter ce que Jésus lui-même avait déjà annoncé dans l'évangile de Jean, où il annonçait quel serait l'impact prophétique concret de la venue du Saint-Esprit sur ceux qui sont les disciples. Et ça nous concerne aussi aujourd'hui, n'est-ce pas, dans Jean 16. « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter. Maintenant, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. » Et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Pour terminer, j'aimerais commenter les deux derniers versets de 2 Rois, 18 et 19. Parce que ces deux versets parlent justement de l'engagement dans l'œuvre de Dieu. Élisée dit encore, « Prends les flèches !» Et il les prit. Élisée dit au roi d'Israël, « Frappe contre terre !» Et il frappa trois fois. Et s'arrêta. L'homme de Dieu s'irrita contre lui et dit, « Il fallait frapper cinq ou six fois. Alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Maintenant, tu les battras trois fois. » En frappant les flèches par terre, ce que Dieu demandait à Joas, c'était de montrer symboliquement sa détermination et son engagement à se battre avec foi aux côtés de Dieu pour obtenir la victoire totale sur les Syriens. N'est-ce pas? Très souvent, notre action, elle est, enfin, je dis, invariablement, je devrais dire, notre action, c'est-à-dire ce qu'on fait, la façon dont on bouge, les projets, les objectifs qu'on se place, sont liés à un engagement intérieur. C'est-à-dire, je décide de faire ça, et souvent, on met une limite. Jusque-là. Je vais aider quelqu'un, mais il ne faut pas exagérer. On ne va pas aller plus que ça. Je vais m'engager là, mais je vais... Voilà. Il ne faut pas que ça prenne trop sur ma vie privée. Je vais mettre des limites. Et c'était l'attitude du roi Joas. Et c'est ça qui a énervé Élisée. Parce qu'Élisée avait fait tout le travail. Élisée lui avait transmis la foi nécessaire pour que Dieu l'entende. Et quand il s'agit de montrer sa détermination à aller au bout, à s'engager dans l'action que Dieu voulait dans qu'il s'engage, eh bien, Élisée aperçut que dans la tête de Joas, dans le cœur de Joas, il y avait des limites. Et ces limites, il les a montrées lui-même en frappant la terre seulement 3 fois, et pas 5, 6 ou 10 ou 20 fois. Élisée annonce donc à Joas que sa victoire sera aussi partielle que l'a été l'énergie qu'il a mis à frapper les flèches contre terre, et qu'il n'obtiendra pas le plein potentiel de la bénédiction et de la victoire que Dieu était prêt à accorder à son peuple. N'est-ce pas ? Dieu fait des promesses dans la Bible. Mais ces promesses ne sont pas accessibles à ceux qui n'ont pas cette violence dont je parlais tout à l'heure, qui n'est pas de la violence physique, mais qui est la force de l'engagement. Oui, je vais aller dans ce sens-là, avec la foi que Dieu me donne, et je ne vais pas mettre de limites. Dieu veut, c'est son désir le plus fort, que nous marchions dans la victoire jour après jour, que nous ne souffrions pas dans nos vies. Et il veut nous insuffler son esprit, et il veut que nous nous battions à ses côtés. Nous ne sommes pas appelés à nous battre contre des humains. Ici, les Syriens représentent le péché. Et la Bible, n'est-ce pas, nous dit que nous devons nous battre contre le péché qui nous environne si facilement. Nous devons nous battre contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres. Ce ne sont donc pas des hommes, ce sont des puissances démoniaques. Contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ça, vous lisez dans Éphésiens 6, au verset 12. Dans Hébreux, il est dit, vous n'avez pas résisté jusqu'au sang contre le péché. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un jour, nous serons appelés à résister au péché qu'on veut nous faire faire, c'est-à-dire quoi? Renier Christ. C'est ce que les Hébreux étaient en train de vivre, la persécution. On leur demandait de renier leur foi, de pécher contre Dieu. Et ils mouraient parce qu'ils refusaient de le faire. Et c'est ça, n'est-ce pas? Lutter jusqu'au sang contre le péché, c'est refuser de renier sa foi en Dieu, quitte à en mourir. C'est encore aujourd'hui le cas, j'allais dire de plus en plus peut-être, le cas pour les chrétiens qui sont issus de l'islam, lorsqu'ils sont reconnus comme étant des chrétiens, eh bien, on leur demande de renier Christ. Ou alors, bien souvent, ils meurent. Dans le cas des chrétiens de Corée du Nord, c'est pareil. S'ils ne veulent pas être internés, au mieux, ou tués, eh bien, ils doivent renier Christ et faire allégeance au président, qui est un dieu, n'est-ce pas, au président de la Corée. Sinon, ils sont mis dans des camps de concentration ou tués. Bien-aimés, nous devons soigner notre relation spirituelle avec Dieu. C'est notre proximité avec Dieu qui est notre trésor. Si nous devons un jour choisir entre renier notre foi et mourir, il faut que la décision coule de source. Il ne faut pas avoir à réfléchir et à appeler 3 médecins pour leur demander qu'est-ce que je dois faire dans cette situation-là. Et je terminerai en relisant dans Joël, à partir du chapitre 2, à partir du verset 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. Je vais prier. Seigneur, merci pour ta parole. Merci Seigneur parce que tu es notre Dieu. Mais tu ne veux pas simplement rester un Dieu lointain sur un piédestal. Tu veux être celui qui vit avec nous jour après jour. Seigneur, tu veux que nous soyons ouvriers avec toi. Cela montre que tu es un Dieu qui travaille. Seigneur, et nous voulons travailler à tes côtés. Nous voulons être de ceux que tu peux utiliser pour annoncer des choses merveilleuses à ceux qui ne te connaissent pas. Nous voulons que tu sois ceux que tu peux utiliser pour être une bénédiction à ceux qui ne le méritent pas. Nous voulons que tu nous utilises, Seigneur, pour que nos vies soient entièrement dépensées pour toi, pour le bien, Seigneur, de ces hommes et ces femmes qui te rejettent. Seigneur, nous ne voulons pas passer nos vies à garder les choses pour nous, mais nous voulons nous donner aux autres. Seigneur, c'est toi qui nous as montré le chemin en te donnant toi-même aux autres, en te donnant toi-même à nous-mêmes, à nous. Seigneur, tu t'es donné alors que nous ne le méritions pas. Seigneur, et c'est ce caractère-là que le Saint-Esprit vient mettre en nous. Seigneur, et nous ne voulons pas lutter contre ces choses-là, mais au contraire, nous laisser convaincre afin de glorifier ton nom dans toutes circonstances. Que ton nom soit béni. Amen.